Canale Inter. Le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Actualité, histoire, grands entretiens. Au micro, des podcasts et live 100% Nerazzurri, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.
Et ciao à tous, ciao à toutes, bienvenue pour cette troisième saison de Canale Inter. Et évidemment, pour commencer la saison, eh bien, on a accompagné, moi, comme d'habitude, de Cédric Canale, mon cher ami et collègue. Salut Cédric.
Salut Giuliano, bonjour à tous.
Et bien évidemment, Kevin Coé, notre invité régulier et de qualité. Salut Kevin.
Salut Giuliano, salut à tous, merci pour la présentation. J'ai envie de dire, l'équipe de qualité. Le trio de qualité.
Oui, le trio, on est un peu le milieu à trois de l'Inter, c'est un peu la même chose.
On est un peu comme Barella, Fratesi et Mkhitaryan, tous ensemble.
Attention aux offres de l'Arabie Saoudite. Hein. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de cet été de l'Inter, l'été au niveau mercato. On va faire un petit point sur ce qu'on a pensé. On va essayer d'être assez bref. Et puis, on va discuter donc des trois premiers matchs, trois matchs gagnés avec trois clean sheets. Voilà, on va en discuter plus longuement. Donc, premièrement, moi, j'ai envie de vous demander, sur ce mercato, simplement, quel vote vous donnez, quelle note vous donnez sur 10 en commençant par toi, Kevin.
Moi, je vais quand même mettre 7,5, 8, parce que je pense que il manque juste un petit truc pour être vraiment complet. Je m'explique. Il y a déjà eu des départs importants, pas facile à gérer. Donc, on part du gardien de but. Onana, c'est pour moi un choix qui a été douloureux pour la saison qu'il a faite. Mais en réalité, pour ce qui a été l'offre, c'est parfait. Je pense que le club a très bien fait d'accepter, parce que pour un gardien de but, recevoir une telle offre, c'est quand même incroyable. Ensuite, en ce qui concerne la ligne défensive et les milieux de terrain, je pense que on a eu des départs importants aussi, hein, Brozovic, Skriniar, mais ils ont quand même trouvé le moyen d'augmenter la qualité, tout en ajoutant un peu d'expérience, parce que Fratesi, Pavard, etc., c'est vraiment c'est des gros coups. Et je pense qu'on n'avait pas forcément l'exigence d'aller renforcer encore plus ces secteurs, mais ça a été fait, donc tant mieux, à moindre coût. Enfin, quand je dis moindre, tu as quand même dépensé un certain budget sur Pavard, mais je pense que c'était important de le faire. Et voilà, devant, je pense qu'il y a de la qualité aussi. Tu as su garder aussi Lautaro. T'as échangé Correa avec Sanchez. T'as pris de la qualité avec Thuram. Je pense, le petit point, voilà pourquoi je ne mets pas non plus le maximum des points, c'est que par rapport au départ de Lukaku et Dzeko, tu perds non seulement une grosse qualité, pas seulement de joueurs, mais aussi dans le championnat, parce que c'est des joueurs qui avaient l'expérience du championnat. Et en plus de ça, il y avait quand même une certaine maturité. Tu vois, là, on a Thuram et Arnautovic qui peuvent démontrer de belles choses. D'ailleurs, ça a commencé. Après, voilà, à voir dans les moments difficiles ou de flexion comment ils vont réagir. C'est la petite inconnue, je pense, qui est liée à leur expérience, même au sein du championnat. Arnautovic a quelque chose en plus, mais pour Marcus Thuram, c'est nouveau. Donc, écoute, affaire à suivre. Mais en tout cas, mercato très très positif.
Je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, je mettrais 8, surtout. Alors, j'aurais peut-être mis 7 dans une situation, on va dire, normale, mais je rajoute un point à Marotta pour la situation, parce qu'il devait faire une économie de 40 millions d'euros de fonctionnement entre les amortissements et la masse salariale, et il a fait ça. Donc, il était dans une situation compliquée pour faire ce mercato. Il a réussi à le faire. Il y a aussi peut-être un 0,5 en plus pour la volte-face de Lukaku, qui a un petit peu changé les plans de l'Inter, parce que les plans de l'Inter, c'était faire un défenseur à 0. D'abord, Nacho, finalement, il a prolongé au Real. Azpilicueta, au dernier moment, il a changé l'Atlético de Madrid. Puis Lukaku, mettre 35-40 millions sur Lukaku, et Lukaku finalement a disparu. Il n'a plus de réseau, c'est comme ça arrive. Pendant plusieurs jours, il a totalement boycotté tout le monde de l'Inter. Et du coup, Marotta et Ozilo se sont retrouvés un peu en difficulté, parce qu'ils se sont retrouvés sans le défenseur à zéro, sans l'attaquant en visée. On a vu, ils ont quand même eu un bon mois pour savoir quoi faire. Au final, ils ont investi sur Pavard. Moi, je trouve que c'est un peu cher pour un joueur qui reste dans le contrat. Mais bon, a priori, c'est le mercato qui était comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Donc, ils ont fait ce choix-là de Benjamin Pavard. Nous, en tant que Français francophones, on ne va pas s'en plaindre de voir arriver Benjamin Pavard après Marcus Thuram. Mais voilà, donc c'est pour ça. Moi, je mettrais 8 aussi. Le fait que Samardzic n'ait pas été fait, je ne sais pas si ça a permis de faire Pavard aussi. C'est l'une des questions. Donc, et puis, je pense que Marotta a bien fait de ne pas céder, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais il a bien fait de ne pas céder au père de Samardzic et de ne pas se brouiller avec les agents avec lesquels il a l'habitude de travailler, dont Rafaela Pimenta. Donc voilà, dans le milieu là, je pense que Marotta s'est bien comporté en tenant sa parole. Donc voilà, donc moi je mets 8. Et toi, Giuliano?
Moi, je vais peut-être la jouer un peu supporter, mais moi, je mets 6. J'aurais pu mettre 7, mais j'enlève un point parce qu'on a recruté Cuadrado. Et c'est
Un
quand même
point,
un...
carrément.
Bah oui, bah attends, on parle du pire ennemi limite de l'Inter, quoi. C'est fou, cette histoire. Après,
Après,
je lui reconnais toutes les qualités, hein. Bon joueur,
encore
il l'a
hier.
montré sur les trois matchs ici. Donc, niveau qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment niveau mentalité, niveau attitude. Il nous a fait péter des câbles lors des matchs contre la Juve pendant des années. C'est compliqué de le voir avec le maillot de l'Inter, quoi. Donc voilà, moi, bon, j'assume, c'est mon petit côté supporter qui prend le dessus sur cette note. Mais après, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître la situation de Marotta et d'Ausilio, comment ils s'en sont sortis dans ces circonstances où on a besoin de faire de l'argent. En plus, on est settlement agreement, donc avec l'UEFA, où on doit faire maximum 30 millions de. On peut avoir le bilan à moins 30 millions comment, chaque année, si je ne me trompe pas. Et alors. Niveau quantité, bah, on a quand même recruté une équipe complète, hein. Pavard, Bissek, Sommer, Frattesi,
Oublier quand même que
Thuram, Klaassen,
ça arrive
ouais.
d'une saison extraordinaire avec Monza aussi. Hein.
Ah
Carlos
oui,
Augusto,
je suis
meilleur
très,
protagoniste. Hein.
bien sûr, je suis très content d'avoir pris Carlos Augusto et Frattesi, qui pour moi sont vraiment les deux joueurs importants dans cette équipe, et Thuram. J'ai plus d'inconnus là-dessus parce que je ne sais pas trop trop ce qu'il vaut. J'ai entendu tout et son contraire à son sujet. Donc, on verra. Les trois premiers matchs ont été excellents de sa part sur plusieurs points de vue. Et on verra dans le futur. Après, l'attaque, c'est sûr que c'est ce qui peut décevoir un petit peu parce qu'on va prendre Sanchez, on va prendre Arnautovic là où on avait Dzeko Lukaku l'année passée. Donc, sur le papier, ça peut paraître plus faible. Maintenant, on verra en pratique.
Kevin, justement, pour rebondir là-dessus, l'attaque, on a l'impression que ça a été, encore une fois, voilà, il y a eu la volte-face de Lukaku. Et après avoir décidé de rajeunir l'équipe, en prenant Frattesi, en prenant Bissek, notamment, il y a eu le choix de, comme c'était un petit peu dans l'urgence, il restait peu de jours dans le mercato, c'était prendre valeurs sûres, qui connaissent la Serie A, contrat d'un an ou 2 ans, mais voilà, faire du court-termisme, on va dire, pour viser la saison. On le sait, viser le titre et la deuxième étoile, mais voilà, on a l'impression que les choix de d'Arnautovic et de Sanchez, c'est ça, parce que mettre 40 millions ou 45 millions d'euros sur un Balogun qui a 21 ans, qui ne connaît pas la Serie A, qui a une seule saison convaincante en pro en Ligue 1, sous le maillot de Reims, par exemple, ça aurait quand même été, alors peut-être intriguant, mais ça aurait quand même été aussi courageux, non, et un peu risqué.
Je crois que tu as touché un point important, c'est-à-dire que ouais, Arnautovic, au final, tu le prends parce que, pas par défaut, mais parce qu'il n'y a plus grand-chose sur le marché. Comme tu dis, Lukaku t'a fait défaut. Donc, ils ont dû trouver un plan B. Et je pense qu'à partir du moment où tu te rends compte que tu as Arnautovic, Thuram, Correa et Lautaro, tu dis, bon, il me faut quand même quelque chose en plus. Correa, il n'a pas convaincu l'année dernière. Donc, moi, je trouve que c'est super. C'est un très bon choix d'avoir fait l'échange. Quand je parle d'échange, bien évidemment, il y a des termes économiques, hein, mais je parle du fait que en fait, tu es allé chercher Sanchez, qui pour moi, malgré son âge, reste un joueur de grande qualité, surtout dans le 1 contre 1, surtout s'il ne se blesse pas, parce qu'on sait qu'il a des soucis physiques, mais ça reste un joueur qui fait la différence, et qui a surtout convaincu quand il a été appelé à le faire. Donc là-dessus, c'est une vraie garantie. Correa, encore à l'Inter, l'année dernière, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, de continuité. Donc, on va quand même lui donner ce point sa faveur. Mais là, comme ça, tu augmentes quand même le niveau technique, le niveau de fantaisie aussi. Parce qu'au final, tu peux te retrouver avec, si tu enlèves Sanchez, tu te retrouves avec 4 joueurs. Le plus fantaisiste des 4, ça pourrait être, quand je parle de fantaisie, c'est pas seulement juste faire des coups de talon ou des petites feintes de corps. Mais je parle d'un vrai joueur de 1 contre 1, des vrais joueurs qui font la différence. On n'en aurait peut-être pas eu parce que Arnautovic, il peut le faire, mais c'est peut-être pas non plus sa qualité première. Lautaro, il peut le faire, mais c'est pas non plus son jeu le plus fort. Et c'est top. Après, je pense que l'équipe, elle est quand même bien huilée parce que sur les côtés, on sait très bien l'importance des pistons, à gauche et à droite dans le 3-5-2 de Inzaghi. Et aujourd'hui, quand tu prends Carlos Augusta et Cuadrado, en plus de ceux que tu as gardés, parce que Di Marco, entre Di Marco, Carlos Augusto, Cuadrado, Dumfries, va y avoir des ballons cette année dans la surface comme l'année dernière. Hein. Donc, s'ils réussissent à trouver justement cette dernière passe dans la justesse, après, il n'y a plus qu'à la mettre dedans. Donc, après, ce sera juste une question d'efficacité. Hein. On est d'accord là-dessus parce que Carlos Augusto, c'est combien? C'est quand même beaucoup de ses débuts et des passes dès l'année dernière. Hein. Et Cuadrado, pareil. Hein. Donc, je pense que ça peut compenser. Tu y ajoutes aussi les milieux de terrain qui restent dans tous les cas très offensifs. On le sait, hein, entre Barella, Fratesi, Mkhitaryan, tout ça. Mais voilà, avoir aussi, faire attention à l'équilibre. Mais je pense que du coup, ça va bien se passer parce que tu n'as pas non plus devant des joueurs qui ne participent pas à la phase défensive. Donc, ça, c'est un plus et ça peut que fonctionner.
Je pense qu'on peut aussi souligner le fait que déjà on s'est débarrassé des indésirables, Gagliardini, Correa, Handanovic. Handanovic, pas pour
Ouais,
tout le
mais tu
monde
vois,
apparemment.
je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur ça. Au final, Gagliardini, Cuadrado. Cuadrado, il était à la Juve. Bien sûr qu'on n'était pas en empathie avec lui par rapport à toutes ses feintes, à ses trucs. Ok. Gagliardini, sur la fin, on a juste critiqué quoi? Le niveau. Et puis au final, parce qu'à la fin, il a dit oui, je pensais, moi, je voudrais plus de temps de jeu. Mais au final, ces mecs-là, ils sont pas méchants. Ils sont très pros parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans leur club et ils n'ont jamais parlé mal des autres. Et moi, je préfère toujours souligner le fait que. C'est plus des joueurs comme Lukaku, Icardi. C'est eux contre qui vraiment il faudrait qu'il y ait
Rien.
entre des sentiments négatifs parce que eux vraiment se sont très mal comportés à l'égard de leur club sans même parler. Donc tu vois ce que je veux même moi à Gagliardini, au final qu'est-ce qu'on va lui reprocher? De pas avoir répondu aux attentes, de pas bah oui bah ça arrive. Hein. Écoute, l'important c'est qu'il ait respecté le maillot. Et, tu vois ce que je veux dire? Même
Ah oui,
Cuadrado.
mais ça, on est totalement d'accord pour Gagliardini,
Cuadrado,
pour
même à la
Correa.
Juve, il ne semble pas qu'il ait dit à une fois dans sa vie, oui, l'Inter, ou je ne sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, ou faire des déclarations, non.
Mais
Il a pas
Cuadrado, il y
refusé
a
de jouer.
non, mais Cuadrado, il y a des attitudes comment assez mesquines sur le terrain. Vous voilà je veux dire toutes les simulations, tout les faits de jeu où il y a eu des problèmes d'arbitrage, etc. Où ça a mené à des conflits avec les supporters de la Juve. Il a créé une bagarre lors du match l'année passée. Voilà, c'est
Oui, mais
une
tu vois
attitude. Oui.
cette bagarre, Juliano, fait que Handanovic prend un carton rouge, qu'Onana joue le match retour et que l'Inter se qualifie. Donc tu vois, il était déjà intérimaire à l'époque, Cuadrado. Il a aidé l'Inter ce jour-là, tu vois.
Côté
Voilà,
positif. Cuadrado, je suis moins d'accord parce que il m'a vraiment cassé les pieds pendant des années et pas juste parce qu'il marquait contre nous. Hein, je veux dire, évidemment, ça c'est pro, etc. Tout ce que vous voulez. C'est aussi comme Théo au Milan. Théo au Milan, je serais dégoûté de l'avoir, même si je trouve que c'est un défenseur latéral très très fort. Mais au niveau attitude, c'est une merde. Voilà, je vais dire les termes.
C'est fait. Alors, justement, alors pour finir sur Cuadrado, bon, il a été sifflé lors des deux premiers matchs à San Siro par une partie du public. Quand il est rentré, pas partout le public. Lautaro, lorsqu'il a marqué le quatrième but sur une passe de Cuadrado ce dimanche 3 septembre, a fait signe au public d'applaudir Cuadrado. Après, sur Instagram, il a aussi fait une story avec lui. Lautaro qui portait le brassard de capitaine sur cette story-là alors qu'il n'a plus son maillot. Donc, on a l'impression, justement, que même le vestiaire fait tout pour l'aider à s'intégrer. Donc, moi, je peux rejoindre une partie de ce que tu dis, Juliano, mais pour moi, par exemple, le siffler, ça n'a aucun intérêt parce que c'est contre-productif. Tu peux ne pas aimer le joueur, mais si tu le mets en
Ah, j'ai pas
difficulté.
dit de le siffler, hein.
Oui,
Moi,
voilà. Non,
j'ai
non,
pas dit non plus de le siffler. Évidemment que c'est contre-productif. Juste que j'étais pas d'accord à sa venue.
mais.
Et on verra comment ça ira. Et peut-être qu'il me fera mentir. Et peut-être qu'il se fera pardonner de ses coups de pute pendant des années. On verra, hein.
Il est chaud, Juliano.
Et
Il est
le podcast va être. Je vais le mettre à moins de 18 ans sur la publication parce que
chaud.
ça va aller.
Bon, bon lundi, bonne saison à tous. Hein. On a mis la barre haute.
4
Non.
septembre, midi, on est déjà chaud.
Je voulais aussi ajouter, et pour faire aussi la transition avec ces premiers matchs, c'est qu'au niveau de l'effectif, il est plus étoffé. Au niveau du banc, on a plus de qualité. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'étais beaucoup plus serein au niveau des changements à partir de la 60e. Quand on voit qu'on fait rentrer Cuadrado, parce que voilà, niveau football, niveau qualité, c'est super de l'avoir et il l'a montré. Et d'avoir Carlos Augusto qui est là aussi, qui fait du très bon travail, qu'on voit qu'on fait rentrer Fratesi, qu'on peut faire rentrer Arnautovic, même si voilà, 34 ans, n'a jamais vraiment percé, mais il a fait du bien sur les quelques matchs. On sait qu'on a des possibilités encore avec Sanchez, qu'on a voilà, on a des joueurs intéressants qui sont dispo et qui font du bien. quoi. Et je pense que ça s'est vu sur ces trois premiers matchs. Et donc, on fait la transition là-dessus. Quel est un peu votre ressenti sur ces trois premiers matchs? Donc, je le rappelle, on a gagné 2-0 contre Monza, on a gagné 0-2 à Cagliari, et donc ce dimanche, 4-0 contre la Fiorentina. Kevin?
Écoute, je pense que déjà ce qui est rassurant, c'est qu'il y a la continuité dans le travail du coach par rapport à l'année dernière, malgré quand même pas mal de changements. Donc ça, c'est bien. On sent aussi que les nouveaux, ils progressivement, mais de manière assez rapide, ils adhèrent au plan de jeu. Donc c'est cool. Il y a une vraie stabilité aussi il y a un vrai équilibre, pardon, au niveau défensif. Après, c'est que le début de saison, hein, on est d'accord. Mais physiquement, ils ont l'air bien. Au niveau de la mentalité aussi. On n'est pas encore arrivé dans des tests matchs. Dans 2 semaines, je pense qu'on aura déjà quelques éléments de réponse aussi. Moi, je dis toujours qu'au final, moi, je partage ton avis, pardon, dans la mesure où, oui, le banc est encore plus complet. L'équipe, dans tous les cas, elle s'est renforcée par rapport à l'année dernière, on est d'accord. Il y a une belle phrase dans le dîner de cons qui dit, c'est pas la stratégie, c'est le stratège. Donc, tout ça pour dire quoi? Moi, en fait, je pense que le problème n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Il y a juste une chose, un aspect qui me laissera toujours très curieux et j'ai envie de voir comment l'Inter se comportera, c'est-à-dire les changements, ce seront toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'au final, on sait déjà que dans son 3-5-2, arrivé à la 60e minute, on va changer les pistons. Ensuite, à 10 minutes de la fin, on changera les attaquants. À un quart d'heure, on change les milieux. Et donc, en fait, la vraie question, c'est comme l'année dernière, au-delà des interprètes qui sont différents, mais s'il y a un match qui est bloqué, il y a une équipe qui répond présente en face. Donc, il y a des difficultés. Qu'est-ce qu'on va mettre en place de différent pour pouvoir justement ramener le match à la maison, faire la différence et débloquer tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc là-dessus, c'est une interrogation parce que on connaît notre coach. Il a une idée très claire de son plan de jeu, de ce qu'il veut d'un point de vue de l'organisation défensive. Ça, c'est top. C'est tout à son honneur parce qu'au final, ça a apporté à des grands résultats l'année dernière. Pas forcément en championnat, mais au moins en Ligue des Champions pour arriver jusqu'en finale. À voir et à confirmer cette saison, voir aussi s'il y a quelque chose de différent.
Et je prolongerai, Kevin, sur ce que tu dis. Au-delà du coach, je pense que les joueurs aussi. J'ai l'impression que cette saison, en tout cas en ce début de saison, encore une fois, il n'y a eu que trois matchs, donc pas de conclusion hâtive, mais que peut-être que les joueurs, la saison passée, entre ce qu'ils ont raté en championnat et de notre côté, l'expérience qu'ont pris les cadres en Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'il y a eu ils ont passé un niveau dans une certaine prise de conscience. Et moi, quand je vois Lautaro, qui se comporte vraiment comme un capitaine, qui est un vrai leader sur et en dehors du terrain, quand Calhanoglu en phase défensive, la façon dans laquelle il récupère les ballons, qui se jette dans les pieds, ses courses, il a un niveau encore plus élevé en ce début de saison par rapport à ce qu'il faisait l'an dernier en tant que Regista. Voilà, j'ai l'impression que ces cadres-là, on peut ajouter Bastoni, on peut ajouter Di Marco, qui a une vraie confiance en lui-même. Di Marco, maintenant, le sens de son côté gauche, c'est pas comme il y a un an. Donc, j'ai l'impression que les cadres ont vraiment passé un cap et que c'est là-dessus, peut-être au-delà des recrutements, parce qu'on verra effectivement quand t'as Fratesi en duel avec Mkhitaryan pour le poste, même si selon moi, Mkhitaryan jouera beaucoup plus de matchs que Fratesi cette saison. Mais Mkhitaryan a une intelligence au football, un QI foot qui est assez incroyable. Au-delà du coach, je pense que c'est les joueurs aussi qui sont en train de passer un vrai cap. Je sais pas ce que t'en penses, Juliano.
Déjà, au niveau Lautaro, tu fais bien de le dire parce que moi, j'ai trouvé aussi, je trouve que c'est assez flagrant que niveau attitude, il y a une attitude de capitaine. Ce qu'il a fait avec Cuadrado, je trouve ça génial. Et aussi sur le terrain, je veux dire, balle au pied, c'est absolument fantastique. Il a déjà mis 5 buts en 3 matchs. C'est fou pour lui, alors qu'il nous a habitués justement à plus rater que de mettre des buts. En guise de comparaison, l'année passée, il lui a fallu 11 matchs de championnat pour mettre 5 buts. Donc c'est très bien de trouver un Lautaro en aussi grande forme. Et comme tu l'as dit, peut-être que aussi la Ligue des Champions l'a motivé. Peut-être qu'il a faim justement. Il s'est rendu compte que merde, c'est possible d'aller en finale de Ligue des Champions. Donc est-ce que c'est possible de... Tout est possible en fait. Donc je pense qu'il a vraiment pris conscience de ça. Et le brassard lui fait passer un cap dans sa mentalité. Et voilà, maintenant, évidemment, on va pas tirer de conclusion hâtive, comme tu as dit, hein. On va attendre de voir lors des matchs importants. J'aurais préféré qu'il mette pas son doublé contre la Fiorentina et qu'il les mette contre le Milan dans 2 semaines. Donc ça, ce sera le plus important parce que après encore, on va dire qu'il marque pas dans les petits matchs, il marque pas dans les grands matchs, il marque que dans les petits, même si bon, il aime bien punir le Milan. Au niveau de Lautaro, je pense que oui, il a passé un cap, il est encore en train de progresser et c'est un joueur qui va falloir vraiment bien encadrer. Et Çalhanoğlu, je trouve que pour le moment, il fait aussi de l'excellent travail au poste de Brozovic. Et ça aussi, on va voir comment ça va évoluer avec le temps. Et je soulignais aussi que je trouve que De Vrij fait un excellent début de saison en l'absence d'Acerbi. Vraiment, un De Vrij comme on avait l'habitude de voir il y a 2-3 ans, quoi. Donc, chapeau à lui et j'espère de nouveau que ça va se répéter dans les semaines à venir.
Affaire à suivre. En tout cas, on peut pas le reconnaître que l'état d'esprit, il est parfait. Tu sens qu'ils ont. Je pense que de toute façon, faut pas se cacher. Hein. Le vrai objectif, c'est la deuxième étoile, hein, les gars. Ça fait 2 ans qu'on passe à côté. Et je pense que cette année, c'est l'objectif déclaré. Hein. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que physiquement, tu vois qu'ils sont bien. Mentalement, ils ont faim. Tout est en train de réussir. Donc, je répète, il faut y aller avec précaution parce que une saison c'est très long, peut y avoir des blessés, on n'a pas encore joué les matchs entre guillemets contre le top 5. Donc tu vois, sûrement dans le mois de septembre, on aura aussi plus d'éléments de réponse avec la Ligue des Champions en même temps qui commencera, etc. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, sur les prémices, c'est clair que tout est positif. Mais attention, parce que le Milan, je pense que ça va être un vrai, vrai test. Beaucoup de personnes sous-estiment le Milan. Pour moi, ils se sont extrêmement renforcés. Ils sont ultra compétitifs. Ils ont gardé le même coach. Moi, je pense que comme pour nous, ils ont encore ce petit truc de l'attaquant, cet aspect de l'attaquant qu'ils auraient pu aussi améliorer d'une autre façon. Mais en tout cas, ils sont très complets autant que nous. Et je peux vous garantir que le derby qui va arriver, il va être très, très chaud.
Léao, déjà, on voit être très très chaud au début de saison et c'est le joueur que
Regardez bien.
perso, c'est celui que je redoute le plus à chaque derby. Lui et Théo, parce que je sais que Théo, s'il le décide, il peut aussi faire beaucoup de mal. Après, c'est vrai que, comme tu dis, il y a ce petit problème en attaque. Après, Giroud a la confiance parce qu'il
Voilà.
enchaîne les buts. Donc,
Ouais, parce
en agir en confiance, ça peut faire très très mal.
ils ont Rafa, Pulisic, Loftus-Cheek, Chouwedze. C'est un peu
De ta
comme.
forme.
Ouais, Okafor aussi. Je laissais tomber le. C'est pas une comparaison ce que je vais donner. Mais en équipe de France, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, il y avait Mbappé, Griezmann et. Bon, bah, tu dis sur la gauche, mais il y avait de la qualité devant, sur la ligne intermédiaire et devant Giroud qui servait de point d'appui. Et ça, au final, même s'il avait soi-disant pas marqué, la France est championne du monde. Donc je répète, ça n'a rien à voir avec la qualité des joueurs. Non, je parle juste du concept. La même chose avec le Milan. Et t'as pas besoin d'avoir le meilleur attaquant, entre guillemets, le meilleur buteur, quand tu as ces joueurs-là. Tu as besoin d'avoir le meilleur attaquant. Donc dans ces cas-là, je trouve que c'est parfait d'avoir Giroud quand tu as autant de qualité sur la ligne des milieux offensifs, tu vois.
Après, évidemment, on verra comment les joueurs répondront présents après la sélection avec leur pays. L'Inter a 17 joueurs qui vont partir en sélection. Le Milan aura 15 internationaux. On va voir. C'est vrai que c'est toujours assez délicat de retrouver les joueurs après ce moment-là. Chaque année, on en a un qui revient avec une blessure. Donc, c'est pas exclu qu'on ait un absent ou deux pour ce moment-là. En ce moment, Sanchez est blessé, Sensi aussi, Acerbi aussi, Pavard il est pas en top forme apparemment, Klaassen non plus. Donc je sais pas comment. À mon avis, Inzaghi va essayer de rattraper ses entraînements pendant la trêve avec ceux qui ne partent pas avec leur pays. Et du côté du Milan, on rappelle qu'il y a Tomori qui ne sera pas là vu qu'il a été exclu lors du dernier match et donc contre la Roma. Et donc, il est suspendu pour le match, pour le derby.
Kevin, un mot sur la Ligue des Champions aussi, puisque le tirage au sort a eu lieu. Donc l'Inter, chapeau 2, ça change la vie, chapeau 2. Parce que l'an dernier, il faut se souvenir que l'Inter s'était pris le Bayern et le Barça. Un chapeau 1 et chapeau 2. Et Pilsen, un chapeau 4. Là, cette saison, c'est donc. Et donc chapeau 1 Benfica pour des retrouvailles après le quart de finale de la saison passée. Il y a Di Maria notamment qui est venu renforcer le Benfica. Chapeau 3. Le Red Bull Salzbourg, il y a eu un beau match amical cet été, il y avait un déluge incroyable au niveau météo, mais voilà, il y a eu un match amical entre les deux équipes cet été. Et puis la Real Sociedad, d'ailleurs l'Inter commencera son parcours dans le Pays Basque espagnol contre la Real Sociedad, une équipe jeune, offensive, belle à voir jouer, mais avec peu d'expérience européenne. Donc qu'est-ce que t'en penses, Kevin, de ce tirage au sort, qui est donc, comme je le disais, plus facile que la saison passée, mais je trouve le groupe assez équilibré malgré tout. Il n'y a pas vraiment de petit, non?
On ne va pas se leurrer. On est quand même avec Benfica, favori du groupe. Après, bon, qui premier, qui deuxième, ça se joue sur des détails. Comme tu as dit, tu as bien décrit, Real Sociedad, ça reste une équipe avec de l'enthousiasme, moins d'expérience, donc ils vont avoir plein d'énergie à revendre. Donc il faudra être très attentif là-dessus et faire jouer notre expérience. Salzbourg, moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est que c'est une équipe qui a de la continuité. Il y a souvent des jeunes talents, des jeunes potentiels qui émergent. Donc là aussi, il va falloir que notre qualité fasse la différence. Parce qu'on a quand même, j'estime qu'on a quand même des joueurs plus affirmés, plus matures. Et puis, Benfica, bah, ça va se jouer au détail. Donc là-dessus, il faudra être patient, comme on avait fait l'année dernière. Hein. Pas se précipiter, même si c'est vrai que c'est des matchs de poule. Donc c'est complètement différent. Mais je pense que tu as toutes les cartes en main pour faire une bonne campagne, sans te mettre la pression. Et ça dépend que de toi. À toi de gérer les forces. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, en plus, on a deux équipes pour pouvoir bien gérer les compétitions. Et après, tu te présentes, tu verras bien ce qui se passe pendant les huitièmes de finale, si tu te qualifies. Mais entre l'année dernière, mais aussi en regardant d'autres groupes, hein, il y a des groupes beaucoup plus difficiles que le nôtre. Bah, on ne va pas se leurrer non plus. Hein. Il faut toujours être humble, mais on ne va pas non plus commencer à dire que c'est le groupe de la mort.
Non, c'est vrai, c'est les voisins de Milan qui sont chapeau 3 ont pris un groupe plus
Voilà.
difficile, aussi parce qu'ils sont chapeau 3 d'ailleurs, mais c'est vrai que quand tu te prends le PSG, le Borussia Dortmund et Newcastle, un chapeau 4, c'est assez compliqué.
Tu parlais, Cédric, de Maria, donc qui rejoint Benfica. Et ils ont aussi un nouveau gardien à Benfica, qui est
Je te suis avec les yeux, vas-y, je t'écoute.
qui est Anatoly Trubin, et donc qui était un des objectifs de l'Inter cet été. Donc très jeune gardien, donc du Shakhtar, donc un jeune gardien ukrainien. Donc ce sera aussi intéressant de le confronter, lui qui était bien placé pendant tout un moment pour prendre le poste de Nana.
Un petit mot, justement, Kevin, on n'en a pas parlé, sur Sommer, le gardien. Finalement, c'était lui le choix numéro 1, avec Odero en prêt en numéro 2. Je trouve que ça a été plutôt intelligent de la part de l'Inter de prendre Odero en numéro 2. Mais Sommer, bon, alors, il est difficile à juger sur les trois premiers matchs, parce que je crois qu'il fait deux arrêts en trois matchs. Mais il les fait bien, mais jeu au pied, bien sans plus, moi j'ai trouvé. Mais voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses du choix de Yann Sommer pour, a priori, au moins les deux prochaines saisons comme titulaire à l'Inter?
Après, c'est un peu toujours la même équation, c'est-à-dire qu'au final, il faut regarder ce qu'il y a sur le marché aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, je pense, qui étaient ouvertes à laisser partir leur gardien de but pour une moindre somme. Parce qu'après, c'est clair que si tu commences à dépenser 30, 40 millions d'euros pour un gardien, tu peux en chercher d'autres, mais ce n'est pas le but du jeu. Donc, entre ce qu'est la spese, la dépense, et le profil que tu as choisi, profil d'expérience, profil de qualité. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est la réponse de la défense aussi. C'est-à-dire qu'au final, c'est le même discours que j'avais pour Handanovic, même discours pour Onana. Un gardien, quand il est aidé par sa défense, ça peut être un gardien totalement différent. Donc, cette année, par contre, on voit tout de suite que dès les premiers matchs, bah, la défense, elle est là. Comme tu dis, il fait deux arrêts parce qu'on se comporte très, très bien sur le plan défensif, que ce soit sur les trajectoires aériennes, sur les centres, sur la profondeur, sur le marquage. Voilà, c'est d'un point de vue collectif, tout le monde participe. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les adversaires de se créer des occasions. Donc, là, maintenant, on peut l'évaluer sur l'efficacité. Deux interventions, deux arrêts. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Parfait. Il est utile dans la construction parce qu'il sait jouer. Voilà, peut-être un peu moins de force ou de jeu long par rapport à Onana qui avait toujours cette capacité à pouvoir mettre un ballon à 80 mètres du but. Donc, comme coup de poker. Mais autrement, ça reste cohérent. Puis surtout, derrière, tu vas quand même prendre Odero, tu vas prendre Di Gennaro. Donc, il connaît la maison. Voilà, ça reste des. Ça m'a l'air d'être des bons mecs aussi. Je ne les connais pas personnellement. Donc, c'est le rôle de gardien de but, c'est toujours très particulier. Il faut qu'ils vivent bien entre eux. Et donc, je pense que là-dessus, ils ont dû évaluer ça aussi. Au final, il y avait aussi le nom de Filip Stanković qui tournait un peu dans les journaux.
Restez, oui.
Ouais, mais du coup, je suis très content qu'il soit allé à la Sampdoria. On savait déjà qu'il voulait jouer. Ça aurait pu être un profil aussi pour les buts. Mais en ce moment, il avait peut-être plus besoin d'un step comme la Sampdoria après la grande saison qu'il avait fait avec Volendam. Mais moi, je suis convaincu que dans 2, 3 ans, peut-être, il va encore continuer d'exploser. Puis on en reparlera.
Oui, tu avais dit du bien de lui, je me souviens, il y a quoi? C'était lors de tout premier épisode, tu avais dit un grand, grand bien de lui. Et d'ailleurs, il a fait une très, très bonne pré-saison, vraiment très bon on l'a vu, contre le PSG notamment, faire un très bon match. Là, il a eu un début de saison un peu compliqué à la Sampdoria, il a fait deux petites erreurs sur les deux premiers matchs, il s'est bien repris hier, mais voilà, gardien effectivement à suivre.
Alors, je voulais terminer seulement avec un petit point sur Onana, même si bon, on n'a plus d'attache officielle avec lui. Bah, lui, il connaît un début de saison un peu compliqué avec Manchester United. Il a déjà fait une ou deux boulettes encore ce week-end. En fait, à chaque fois, il prend pas des buts vraiment de sa faute, mais on se dit, moi, il aurait pu faire quelque chose, quoi. Il se fait encaisser à la dernière minute contre Arsenal ce dimanche. Voilà, s'il avait eu la main un peu plus ferme, le ballon de Rice serait peut-être pas rentré.
Il a pris un but de 50 mètres. Et donc, au final, on ne peut pas changer sa nature. Quand il était à l'Ajax, boulette, il en a fait. À l'Inter, il en a fait moins parce que la défense, je le répète, elle a fait une superbe saison. Parce que quand tu mets Handanovic avec une défense qui a plus envie, qui est plus motivée, qui est moins attentive, bien sûr qu'Handanovic, ce n'est pas le gardien qui va te faire des prouesses à tous les matchs, compte tenu des circonstances, de son âge, etc., de sa réactivité, de son profil. Par contre, tu mets Onana avec la même défense qui prenait l'eau, eh ben, je peux te garantir qu'on aurait pris beaucoup plus de buts aussi. Et l'année dernière, la défense, elle a fonctionné. Lui, il était motivé aussi. Nouveau challenge, ça se passait bien. Il a fait une saison incroyable. Il faut lui donner mérite. Par contre, on se rappelle tous l'année dernière qu'il a quand même fait pas mal d'erreurs qui n'ont pas coûté de but. Mais entre
Il y a eu
les
des
arrêts,
poteaux, il y
le
avait.
ballon qui lui échappe, ça touche le poteau, le ballon qui lui échappe et le défenseur, il est là au lieu que ce soit l'attaquant. Il est mal placé, puis au final, le tir va dehors. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont bien fonctionné l'année dernière. Donc, top. Et il faut reconnaître les mérites. Belle saison, belle performance. Mais là, pour le début de Manchester, j'y vois rien de nouveau, moi. Parce qu'à l'Ajax, il était déjà connu pour faire des conneries.
On va terminer sur ce petit point pour Onana, à qui on souhaite quand même une meilleure saison que ce début, ce premier match. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir participé pour ce premier épisode de la saison 3 de Canal Inter.
Ben, merci à toi, Giuliano. Merci, Cédric. Et puis, on espère que cette petite mise en bouche de la saison vous plaira avec un Giuliano très hot pepper. En tout cas, bonne saison à tous.
On verra après le derby, on fera un nouveau petit point sur ça, puisque ce sera le premier match test, match important de la saison, un match qu'il ne faudra certainement pas rater, surtout que les deux équipes de Milan sont au top du classement avec 9 points. Merci encore à Cédric pour ce podcast, pour l'habillage visuel.
Merci Giuliano, merci Kevin d'avoir été avec nous. Puis nous, oui, on se retrouve juste après le derby du 16 septembre. C'est 16 septembre, 18h le match. Voilà.
Ouais, un
Et
peu
le...
un horaire un peu enfin, qui ne m'arrange pas, moi. Mais bon.
Moi,
Je
ça
pense que
m'arrange,
c'est...
mais.
Ouais, ça m'énerve qu'on mette des derbies un samedi soir, quoi. Mettez ça le dimanche soir, c'est bon. Hein.
Il y a la Champions
Mais
League
bon,
après.
Giuliano, t'as déjà dit deux gros mots, tu peux en dire un troisième.
Ça me casse les couilles, voilà.
Voilà.
Allez, ciao à tous.
Allez,
ciao.
ciao à tous.
Ciao, ciao.
C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast et YouTube. Et pour des infos et coulisses depuis Milan, suivez-les sur Twitter. Alla prossima, fratelli!